Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et celui qui est avec nous, évidemment, comme chaque semaine, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
La semaine dernière, vous nous avez présenté les portraits de quelques femmes qui sont aux manettes de l'Union européenne.
Et cette semaine, je reviendrai un peu en arrière pour évoquer quelques autres de ces figures féminines de l'Europe, comme je les ai appelées. Et effectivement, j'ai plusieurs fois évoqué à ce micro les fondateurs de l'Union européenne, et je m'intéresserai aujourd'hui aux fondatrices ou aux inspiratrices du sentiment européen.
Bon, alors par laquelle on commence ?
Logiquement, par la plus ancienne, Madame de Staël, qui est qualifiée parfois de Madame Europe. Quelques données biographiques qui montrent que les origines et l'existence de cette femme de lettres avaient une réelle dimension européenne. Germaine de Staël est la fille du financier suisse Jacques Necker, qui deviendra le ministre des Finances du roi de France Louis XVI. Elle épousera en 1786 un diplomate suédois, puis s'exilera en Angleterre pour échapper à la terreur d'une révolution dont elle partage pourtant bien des idéaux, et elle se réfugiera plus tard en Suisse pour fuir cette fois un régime napoléonien qui prend de plus en plus des allures autoritaires. Et c'est dans son exil helvétique qu'elle rédige son essai intitulé « De l'Allemagne » dans lequel elle écrit notamment « Il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen ». Madame de Staël incarne en effet l'Europe de l'esprit, voyageant dans les cours européennes et recevant dans son salon les intellectuels progressistes de ce début du XIXe siècle, un salon que l'écrivain Stendhal qualifiera d'états généraux de l'opinion européenne. Mais nous allons maintenant nous rapprocher beaucoup plus de notre époque.
Mais avec qui donc ?
Avec Louise Weiss, une femme que l'on surnomme la grand-mère de l'Europe et dont le nom a été donné en 1999 au nouveau bâtiment du Parlement européen de Strasbourg pour le rôle, justement, que cette journaliste et femme politique française a joué au service de l'idée européenne. Elle avait d'ailleurs été, en 1979, élue de la première Assemblée européenne désignée au suffrage universel, et elle en avait assuré, au titre de doyenne d'âge, elle avait alors 86 ans, le discours resté mémorable de la séance d'ouverture, dont je vous propose un court extrait.
Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture.
Revenons, si vous le voulez bien, sur l'existence et l'œuvre de cette femme née en 1893 et devenue à 21 ans la plus jeune agrégée de lettres classiques en France. Mais elle trouvera sa voie dès l'année suivante dans le journalisme et les relations internationales. Proche d'Aristide Briand, elle soutient son idéal pacifiste et défend les projets de construction européenne. Résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle participe au journal clandestin La Nouvelle République. Et dans le cadre de son activité journalistique, elle milite aussi pour la cause féminine et pour le droit de vote des femmes. Et elle est demeurée députée européenne jusqu'à sa mort à 90 ans en 1983.
Figure marquante en tous les cas. Une autre figure féminine peut-être ?
Oui, et italienne cette fois, Sofia Corradi. Son nom nous est peu connu, mais j'ai déjà parlé d'elle sur cette antenne dans une chronique consacrée au programme Erasmus. Sofia Corradi est un peu l'initiatrice de ce projet, et c'est pourquoi on lui attribue parfois le surnom de « Mama Erasmus ». Je vous parle un peu d'elle. À la fin des années 50, cette brillante étudiante en droit est partie compléter sa formation dans une université américaine. Et à son retour, à sa grande déception, elle a dû recommencer son année d'études, car son université romaine ne lui reconnaissait pas l'équivalence de cette formation. Sofia Corradi a pris conscience à ce moment-là que si elle avait eu, elle, la possibilité matérielle d'étudier à l'étranger, ce n'était pas du tout le cas pour des étudiants et étudiantes beaucoup moins favorisés qu'elle. Est devenue par la suite une universitaire de renom, elle militera pour faciliter les échanges entre étudiants de pays européens différents et parviendra à convaincre François Mitterrand de proposer au Comité de l'Europe des citoyens le programme d'échange qui, en 1987, deviendra Erasmus, considéré aujourd'hui par une large majorité de l'opinion européenne comme une des plus grandes réussites de l'Union européenne.
Et nous savons donc désormais à qui nous le devons. Et puis, un autre nom peut-être encore pour terminer ?
Je ne pouvais pas conclure cette chronique sur les grandes figures féminines qui ont fondé l'Europe ou qui en ont porté les valeurs avec le plus de conviction sans parler de Simone Veil. Je n'évoquerai pas ici sa carrière politique nationale et le rôle prépondérant qui a été le sien dans la reconnaissance du droit à l'avortement dans notre pays. C'est de l'européenne dont je voudrais parler aujourd'hui, elle qui était devenue en 1979 la première présidente de ce Parlement européen nouvelle version élue au suffrage universel, et elle siégera à ce poste jusqu'en 1982, mais demeurera toujours une pro-européenne engagée et active. En effet, elle qui avait vécu dans sa jeunesse l'enfer des camps de concentration, affichera toujours une conviction européenne profondément enracinée. Se fixant de grandes ambitions, disait-elle, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes. La paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité entre les riches et les pauvres, l'Europe, c'est le grand dessein du XXIe siècle. Fin de citation. Cette survivante d'Auschwitz jugeait ainsi nécessaire et même indispensable la réconciliation franco-allemande pour éviter une troisième guerre mondiale.
Et voilà ce qui va nous emmener au bout de cette présentation des femmes politiques qui ont marqué l'Europe.
Oui, j'aurais pu citer aussi la Belge Eliane Vogel-Polski, une avocate qui a mené plusieurs combats en faveur des droits sociaux en Europe, ou encore la députée travailliste Jo Cox, assassinée pour avoir milité pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne au moment du Brexit. Et la semaine prochaine, j'évoquerai le combat qu'ont dû mener les femmes, et les femmes de culture en particulier, pour la reconnaissance de leurs droits.
Des femmes qui bien souvent doivent encore se battre pour exister dans la sphère politique, malheureusement, mais ça c'est un autre débat. Pour l'instant, on va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette belle série de chroniques sur les figures féminines de l'Europe. D'ici là, Jean-Pierre, une belle semaine.
Et bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 rue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.